Il y en a qui me posent la question en disant mais pourquoi qu'un prêtre ne racontait pas les histoires qu'on lui disait. Et je vous rassure, ce que je vous ai dit, les exemples concrets que je vous ai dit, d'abord je ne vous ai donné aucun nom concret, et puis c'est des exemples que j'ai par dizaines. Les jeunes filles qui sont venues voir pour dire je suis amoureux, des garçons qui sont venus voir pour dire je suis amoureux, qui vont trop vite ou qui vont trop loin, j'en vois des centaines. Donc, le prêtre, je pense que pour un topo, il faut être concret, et je vous donne des exemples concrets de ce que je peux voir, mais qui sont assez généraux pour que vous puissiez comprendre sans savoir qui c'est. D'autre part, il y a plusieurs questions qui se ressemblent. Alors je vais y répondre en même temps. Il y a plusieurs qui me demandent comment savoir si on aime vraiment. Le plus important que vous preniez, c'est pas. Comment dire? Pour moi, je ne vous donne pas de recettes de cuisine. Il n'y a pas un code de la route où il faut absolument passer par tel machin, etc. À tel âge. Non, c'est pas si cloisonné que ça. C'est pas une recette de cuisine. Vous voyez? Chacun a une histoire personnelle, individuelle. Quand je parle à 100 jeunes, je ne parle pas de la même façon que quand je parle à chacun. Avec chacun, je pourrais adapter à l'histoire personnelle. Mais ce qui est général, ce qui est commun à tous, c'est que on a besoin de temps pour discerner. On a besoin de temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Plusieurs me disent, et moi j'ai un très bon ami, comment lui dire mes sentiments, etc. Mais ne lui dites pas pour l'instant. Ne lui dites pas. Gardez ça précieusement dans votre cœur, dans le secret de votre cœur. Qu'est-ce que ça va rajouter ? Vous avez la chance d'avoir de vraies amitiés. Profitez-en pour l'instant. Ça suffit largement pour connaître quelqu'un, pour pouvoir avoir de vraies discussions avec quelqu'un, pour pouvoir avoir des véritables échanges avec quelqu'un. Vous voyez ? Et ça vous laisse le temps, sans vous engager. Sans vous engager. Et du coup, sans risquer de blesser, si jamais on se reprend. Ça vous laisse le temps d'apprendre à connaître, de mûrir les choses. Vous voyez ? Alors qu'une amitié où on s'est déclaré, et puis on se reprend ensuite, eh bien on sent bien que ce sera pas la même chose ensuite. Vous voyez ? Profitez de. Enfin, je veux dire, il y en a d'autres qui me demandent, mais est-ce que c'est normal, comment faire pour ne pas être complexé alors qu'on sort pas avec. Qu'on essaie de vivre cet idéal ? Mais attendez, mais. Faut pas renverser les choses ! Ceux qui ont raison, ceux qui sont dont on peut être fier, ceux qu'on peut prendre comme modèle, c'est pas ceux qui enchaînent et qui ont un tableau de chasse impressionnant. C'est ceux qui apprennent à vivre des vraies amitiés, qui sont capables de vraies amitiés. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qu'on va faire vraiment confiance. Ceux, vous savez, qui reprennent pas leurs paroles et qui du coup, la donnent pas comme ça. Voyez. De vrais amis. Comment savoir si c'est la bonne ? Eh bien, prends le temps d'une amitié gratuite. Est-ce que cet ami-là, est-ce que cette fille-là, ce garçon-là, est-ce qu'il est capable de gratuité ? Ça veut dire d'être ton ami sans te demander que tu sois le seul, exclusif. Vous voyez ? On a des amis, des grands amis. Et on va le petit copain d'un tel. Vous voyez ? Gardez ce cœur large. Est-ce que ce garçon, est-ce que cette fille est prêt à prendre ce temps ? Est-ce qu'il est prêt, du coup, vous voyez, à prendre ce temps pour se construire lui-même ? Parce que le jour où il aura à se donner, il faut que ce soit une vie construite, solide, qu'il donne. Est-ce que ce garçon, il a compris cette importance de l'amitié gratuite ? Même s'il est amoureux, même s'il est secrètement amoureux, très bien, il garde ça dans son cœur. Ça va mûrir, ça va. Ça va continuer, si ça doit continuer, ça va. Mais vous voyez ce qu'on se déclare, parce qu'on a peur, on a envie de verrouiller tout le truc, on a envie que l'autre soit à nous-mêmes, ben c'est pas encore très libre, c'est pas encore très mûr. Vous voyez, c'est le temps, vous êtes dans le temps des grandes amitiés. Comprenez ça. Et je peux vous dire que c'est du ciment pour la suite. C'est du ciment pour la suite. Alors, il y en a qui me disent, mais alors, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à 25 ans? On va jamais aimer? Mais peut-être tu seras amoureux, peut-être. Mais, et peut-être que si vraiment tu te sens prêt ou prêt, tu vas pouvoir commencer à construire quelque chose. Pour moi, ce n'est pas une question d'âge. Mais c'est une question d'être vrai. Est-ce que quand tu vas dire à l'autre je t'aime, est-ce que ça veut vraiment dire je te choisis? Si ça ne veut pas dire ça, eh bien attends encore. Attends. Voyez? Parce que l'autre a besoin de pouvoir s'appuyer sur ce je t'aime. D'être sûr. Et non pas de se dire, il m'a dit ça, mais peut-être que dans 6 mois, il pensera autre chose. Quelqu'un me dit, ben alors, moi je ne pense pas que ce soit possible d'aimer pour la vie. Ou quelque chose comme ça. Eh bien, je pense que. Moi, je pense au contraire que c'est ça là, la joie que le Christ nous apporte. La joie que Dieu nous apporte. Même si c'est difficile, même si tout le monde n'y arrive pas, et on sait bien, dans nos familles, dans ma propre famille, on est tous plus ou moins proches de gens qui se sont abîmés, qui n'ont pas réussi à construire un amour pour la vie. Et je crois que à 15 ans, il faut le désirer profondément, y croire. Et que justement, parce qu'on sait que c'est difficile, même pour les meilleurs, c'est difficile, il faut en prendre les moyens. Votre liberté, votre grâce, c'est de pouvoir un jour librement choisir. Voyez, je décide de me donner à un tel, de me donner pour toujours. Pas parce que je suis sûr de ressentir toujours quelque chose, mais parce que je décide que ça sera lui, que ça sera elle. Prenez le temps pour passer de l'un à l'autre. Même du sentiment amoureux à l'acte d'aimer. Il y en a plus d'autres qui me disent pourquoi on ne peut pas se donner totalement avant le mariage, même si on est sûr qu'on aime. Pourquoi on ne peut pas avoir une relation avant le mariage sans abuser? Moi, je vais vous donner 2 raisons, toutes simples. Première raison, raison humaine, pour tout le monde, que même vos amis non-chrétiens pourraient comprendre. Le corps, c'est fait pour révéler le cœur. Le corps, c'est fait pour être le langage du cœur. Et donc, le don des corps, ça doit être là pour signifier le don des cœurs. Pas pour l'anticiper, pour le signifier, pour le couronner. Vous ne pouvez pas vivre quelque chose de plus grand que la relation sexuelle. C'est ce que vous avez de plus à offrir. Vous allez vous offrir totalement. Vous ne pouvez pas vous offrir. Vous ne pouvez pas demander à l'autre de s'offrir. Si ce n'est pas pour toujours. S'il y a un risque de se reprendre. Si on n'est pas engagé pour toujours. Parce que ça crée des liens extrêmement forts, vous comprenez? On ne peut jamais reprendre totalement. Ça crée des liens très forts. Et ces liens-là, il faut qu'ils viennent après votre choix. Si vous voulez que votre choix soit libre. Voyez, c'est une question de liberté. Tant que je ne suis pas marié, tant que je ne suis pas engagé pour toujours, l'autre ne m'appartient pas. Et je n'appartiens pas à l'autre. Et donc j'attends de l'avoir reçu pour me donner. J'attends qu'il y ait cette décision définitive qui va m'assurer que jamais l'autre ne se reprendra. Et dans ce cas, c'est pour ça que je peux sans crainte me donner totalement, me livrer à l'autre. Et puis, il y a une raison chrétienne aussi. La raison chrétienne, c'est de... Je raconte, j'ai souvent l'habitude d'expliquer ça en racontant une petite histoire. Imaginez que vous êtes père de famille, mère de famille. Vous avez un fils de 10 ans qui aime beaucoup les trains électriques. On va l'appeler Ernest. Ernest aime beaucoup les trains électriques. Vous êtes au mois d'octobre, faites les courses, et vous tombez sur un super train électrique en promotion. Vous dites, je vais l'acheter, et je vais l'offrir. Alors très bien, vous l'achetez, vous faites tout, et votre, voilà, votre conjoint, vous mettez dans un papier cadeau, vous mettez ça en haut de l'armoire, dans votre chambre, et puis voilà. Ernest, il sait très bien qu'il n'a pas le droit d'entrer dans votre chambre. Mais un soir, vous partez dîner, Ernest, il rentre dans votre chambre, et puis voilà le papier cadeau. Il très bien que c'est pour lui, il sait très bien que c'est pour Noël. Et pourtant il craque. Il va monter sur une chaise, puis il va le chercher, et puis il l'ouvre. Il l'ouvre, et puis il s'amuse avec, vraiment. Il s'amuse avec. C'était pour lui, c'était fait pour ça. Mais quand vous rentrez, vous parents, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être infiniment triste dans votre cœur, de voir que votre garçon n'a pas compris la différence qu'il y avait entre prendre et recevoir. Vous auriez tellement aimé pouvoir lui offrir ce cadeau-là, pouvoir avoir la joie de lui donner au moment voulu. Et non, lui, il l'a pris comme un droit, comme un dû. Et bien, vous voyez, la relation sexuelle, c'est un don de Dieu magnifique, extraordinaire. C'est un don de Dieu que Dieu fait aux époux. La question que Jésus vous pose, acceptes-tu de recevoir ce don-là quand je te le donnerai? Ou vas-tu le prendre comme un droit, sous prétexte que tu es sincère ou que tu as envie? Vous voyez là, et vous ne le vivrez pas de la même façon, je peux vous dire. Si vous l'avez attendu comme un don, et que vous l'avez reçu comme un don, ou si vous le vivez comme un droit, si vous le prenez comme un droit. Il ne s'agit pas de prendre l'autre, il s'agit de recevoir l'autre. Il y en a qui m'écrivent, est-ce qu'on peut retrouver cette pureté quand on l'a perdue, parce qu'on s'est déjà donné? Et un autre qui me demande, mais alors quelle place pour la miséricorde si tout ça nous marque? Si ce qu'on fait dans ces années-là nous marque? C'est ce que je vous ai dit à la fin. Le Seigneur peut tout réparer. Le Seigneur est capable de tout pardonner et de tout réparer. Si on a encore la simplicité de lui offrir, de lui donner. Quand je confesse des jeunes qui se sont abîmés, qui se sont donnés, je leur dis toujours ça. Je leur dis, vous savez, le Seigneur, en vous donnant son pardon, va vous redonner une véritable virginité du cœur. C'est la seule qui compte à ses yeux. Cette clarté absolue qu'il vous redonne. Mais du coup, comprenez bien que le Seigneur vous la redonne pour que vous la gardiez précieusement. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a, quelles que soient nos faiblesses, quel que soit notre passé, quelles que soient nos erreurs, on ne peut jamais être découragé. Parce que si le Seigneur est allé jusque-là, c'est justement pour prendre toutes nos erreurs sur lui, tous nos péchés, toutes nos faiblesses, et pour pouvoir nous rendre cette pureté, cette clarté-là. Vous voyez? Et c'est ça qui touche le cœur du bon Dieu, y compris quand j'entends en confession des choses très graves dans ce domaine-là. Ce qui touche le cœur du bon Dieu, c'est de voir que la personne s'en confesse avec humilité, franchise, et que du coup, elle a soif de retrouver cette clarté. Et c'est ça qui est important. Dernière question. Je ne peux pas répondre à toutes, vous viendrez me voir personnellement pour répondre. Il y a plusieurs qui me disent aussi, mais que peut-on répondre à ceux qui ne comprennent pas ou qui se moquent de nous, de ce qu'on veut vivre, quand on veut vivre cet idéal? Moi, n'ayez pas peur d'être libre, c'est par rapport au regard des autres. Les grandes gueules ne sont jamais ceux qui vont tenir jusqu'au bout, à qui on peut vraiment faire confiance. Ceux qui brillent et ceux qui ne brillent qu'un temps. Vous savez, ceux qui rigolent aujourd'hui pleureront demain. Et je pense qu'au final, il y a une fille qui me pose la question, pourquoi les garçons sont toujours attirés par ces filles brillantes et non pas par les filles claires et pures? Je pense que, effectivement, vous savez, c'est ce que je dis souvent aux filles, je leur dis, c'est un peu le choix que vous avez à faire, mesdemoiselles. Quel regard voulez-vous susciter? Quel regard voulez-vous susciter? Si c'est un regard malsain, de mauvais désirs, alors c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir l'attitude qui correspond, d'avoir l'habillement qui correspond, c'est pas très compliqué. Effectivement, dans une soirée, la minette qui se tient mal, eh ben, c'est elle qui va capter le regard dans un premier temps. Ok, elle a la réputation qui va avec, bien souvent. Maintenant, si je demande au garçon, quelle est la fille à qui tu fais vraiment confiance? Quelle est celle avec qui tu pourrais vivre une véritable amitié? Quelle est celle que tu pourrais imaginer comme la mère de tes enfants? Je peux vous dire, ce ne sera pas la fille facile, ce ne sera pas la fille brillante, séductrice, etc. Parce qu'ils savent bien que dans ce cas-là, ils ne seront pas les premiers. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas plaire, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Soyez infiniment libres. Et je peux vous dire que des filles qui ont un bel idéal attirent les garçons qui ont le même idéal, et vice-versa. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Maintenant, ceux qui s'amusent, ceux qui s'abîment aujourd'hui, ceux qui s'en foutent, pleureront demain. La joie se paye avant, le plaisir se paye après. Forcément, la pénisse qui monte vers le sommet, ben, il souffre un peu plus que celui qui descend à toute allure vers le ravin. C'est plus dur, le chemin est plus dur, c'est vrai. Mais la joie n'est pas la même au bout. Heureusement qu'on peut monter le ravin, bien sûr, avec l'aide de Dieu. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder. Parce que plus on descend, plus c'est dur de remonter. Je termine, je conclue là-dessus. Pour la question, vous viendrez me voir, vous me les enverrez par mail si vous voulez. Ça me rassure avec une phrase de Jean-Paul II qui m'avait profondément marqué. C'est la conclusion de la retraite. C'est au GMJ à Rome, Tor Vergata, près de Rome. Veillée du samedi soir. Le pape Jean-Paul II avait devant lui 2 millions de jeunes. 2 millions de jeunes. Il était déjà très âgé, malade. Et du coup, c'était impressionnant parce que comme il parlait difficilement, on avait du mal à comprendre. Du coup, tout le monde était hyper attentif à chacune de ses paroles. Et voilà tout d'un coup ce vieux pape qui, au milieu de son discours, s'arrête, regarde longuement les jeunes et leur dit « Mes amis, vous avez tous une vocation au martyr. » Écoutez bien jusqu'au bout. Écoutez bien et gravez ces mots dans votre cœur. Vous avez tous une vocation au martyr. Ça ne sera plus le martyr sanglant des premiers chrétiens. Ça sera le martyr de la fidélité à contre-courant. Le martyr de la fidélité à contre-courant. Et rajoute-t-il, montrant que dans son cœur de pape, il connaissait parfaitement les jeunes. Je pense en particulier, dit-il, aux jeunes et aux difficultés de garder la pureté entre amis. Je pense en particulier aux fiancés et la difficulté de garder la chasteté jusqu'au mariage. Je pense en particulier aux jeunes consacrés, la difficulté de rester fidèles à leur vocation. Martyr de la fidélité à contre-courant. Bien moi je prie pour que l'Esprit Saint que vous allez recevoir vienne faire de vous des jeunes libres, capables d'être à contre-courant. Non pas de se laisser emporter dans le courant, comme les branches mortes dans les rivières, mais comme les rochers qui tiennent à contre-courant et sur lesquels les autres pourront s'appuyer. C'est pour cela qu'on va finir en se confiant une dernière fois à la Vierge Marie dans cette grande église de Montligion pour lui demander de vous donner ce désir. Et on va la prier tout spécialement pour ceux parmi vous qui n'en sont pas convaincus, pour ceux parmi vous qui n'ont peut-être pas le courage aujourd'hui de choisir la joie de demain. La joie de, quand je dis demain, c'est très vite, ça passera, ça arrivera très vite. Que la Vierge Marie vous aide et vous aide à prendre conscience chacun de la beauté de votre pureté.